Les émissions des quartiers.
Pour un outil dédié aux habitants.
On m'a formé comme journaliste.
La radio part à votre rencontre.
À Ivry, il se passe des choses qui sont positives. Et juste, c'est juste pour en parler. Une radio, je pense que ça doit servir à ça.
Un espace d'expression complètement libre où chacun peut intervenir.
C'est aussi des rencontres, des échanges avec les jeunes, les moins jeunes.
Il faut parler ensemble, quoi. Faut y aller, faut dire toutes ces choses. C'est peut-être un peu ridicule, mais c'est ce qui fait la vie ensemble.
Les émissions des quartiers.
Sur Principe Actif.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouveau volet des émissions des quartiers. Aujourd'hui, nous avons posé notre studio au Clos-au-Duc, où se déroule actuellement et sous nos yeux le 6e festival de lecture à voix haute. Bonjour Catherine.
Bonjour JC.
Alors Catherine, vous êtes la référente du pôle ressources habitants et vous m'accompagnerez au micro durant cette émission en direct.
Oui, en effet, depuis le début de l'après-midi, nous avons assisté à des conférences, des lectures et des animations sur le thème du jardin.
Alors nous sommes donc installés dans cette grande salle où se déroule actuellement l'apéro qui précède au repas et au spectacle de lecture à voix haute des maudits lecteurs. J'ai descendu dans mon jardin.
Aujourd'hui se croisent dans l'association du Clos-au-Duc, amateurs, néophytes et professionnels du jardin. Vous l'aurez compris, qu'il soit potager, d'agrément, ouvrier ou d'expérimentation, le thème de ce festival de lecture à voix haute est le jardin.
Eh bien Catherine, justement, nous nous efforcerons durant cette heure d'apéro, d'émission, de partager avec les auditeurs un petit morceau de tous ces échanges. Et pour ce faire, Catherine, quel est le sommaire ?
Oui, donc au sommaire ce soir, nous allons avoir les bénévoles de l'association du Clos-au-Duc qui sont à l'origine de ce festival, des interviews de jardiniers, de la lecture de poésie, les maudits lecteurs et JC, vous irez bien faire un petit tour dans la salle avec votre micro sans fil pour nous saisir les impressions de la salle.
Bah, bien entendu Catherine, surtout que le bar se situe à l'opposé du studio dans cette grande salle, donc comptez sur moi pour aller y recueillir des questions, des remarques, un tas de choses. Je vous ramènerai quelque chose ?
Bien sûr.
Bah voilà.
Et tout de suite, pour vous planter décor, 30 secondes de sensation jardin.
Je trouve que c'est toucher la terre, c'est thérapeutique. Hein. On oublie tout quand on touche la terre.
Moi, c'est les remontées d'odeurs après un orage.
Ah, oui,
ça, c'est merveilleux. Il y a toutes les odeurs qui se mélangent. Et c'est le paradis.
Moi, c'est le matin. Moi, la petite rosée, tout ça, le matin. C'est vrai que tout est là. En plus, on a un environnement qui est formidable.
Voilà, nous venons d'écouter un extrait de La Pomme, la petite œuvre multimédia qu'a confectionné les bénévoles de l'association du Clos-au-Duc. Justement, nous les avons avec nous sur le plateau et nous avons également Lucas Ozou, président de l'association du Clos-au-Duc. Vous organisez donc cette année la 6e édition de ce festival de lecture à voix haute. J'ai envie de vous demander comme ça en ouverture, pourquoi un festival de lecture à voix haute ? C'est pas si courant que ça comme festival.
Non, mais justement, peut-être que l'association a voulu se démarquer de ce qui se faisait habituellement dans les autres structures en mettant en place il y a quelques années ce festival. Et je profite de l'occasion et du micro pour remercier l'ensemble des bénévoles et des salariés de l'association, bien sûr, qui accompagnent la mise en œuvre depuis maintenant 6 ans, la mise en œuvre de ces différents festivals. Et surtout Patricia, qui est un peu l'initiatrice de la mise en œuvre de cette idée, qui est une idée habitant au départ.
Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Une idée habitant, c'est peut-être pas très clair pour tous les auditeurs. Donc vous êtes une association de quartier qui proposait diverses activités tout au long de l'année. Ça s'adresse à toutes les tranches d'âge et à la famille. Qu'est-ce qu'on entend par une idée des habitants ?
En fait, on était un groupe de personnes qui ont l'habitude de venir à l'association pour faire des activités, ce groupe est intéressé par la lecture. On se retrouvait donc une fois tous les 2 mois pour parler de nos livres, des coups de cœur, etc. Et suite à ça, on s'est dit, ça serait intéressant de faire un festival autour de la lecture. C'est vrai, comme dit Lucas, qu'on avait envie que ce soit un peu différent que des festivals livres habituels. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas la lecture à voix haute. Et tous les ans, donc, on choisit un thème. On est donc tout le groupe, on est une dizaine donc, de bénévoles, de personnes qui sont du quartier. C'est pour ça qu'on dit que c'est, ça vient du quartier, enfin des habitants. Et on décide donc d'un thème. Donc cette année, c'est Catherine qui est à côté de moi qui a proposé ce thème-là. Et à l'unanimité, on a fait ce choix.
Alors Catherine, pourquoi le jardin ?
Le jardin, parce que... Tout d'abord, j'aime bien le jardin, j'aime bien les jardins. Et puis que lecture rime bien avec jardin, lecture au jardin. Donc c'est un thème qui convient bien à la lecture.
C'est vrai. Et vous avez un peu plus travaillé sur les jardins ouvriers. Mmh. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui a motivé cette idée.
D'accord. Alors en fait, c'est vrai que pendant toute l'année, en fait, on commence à travailler sur le festival au mois de janvier et ce qui intéresse aussi le groupe, c'est de travailler toute l'année sur un thème. Oui. Sur ce thème, mais avec des choses particulières. Donc on avait envie de se pencher sur les jardins ouvriers d'Évreux. Il y a 7 jardins. C'est vrai que c'est quelque chose, un potentiel quand même important. Oui. C'est un lieu de convivialité qui nous intéresse. On a décidé donc de faire des interview de jardiniers et puis on était un peu ambitieux et on a décidé de faire donc une pomme avec l'aide de Tunisia.
Une œuvre multimédia.
Œuvre multimédia, voilà. Donc photos, films et puis effectivement tout ça mélangé avec les interviews.
Et des rencontres avec des jardiniers. Voilà. Alors et ça vous a apporté quoi ? Vous en avez...
Bah c'est vrai que c'était des rencontres très très riches. C'est pas forcément un milieu qu'on connaît, enfin qu'on voit régulièrement. Donc on a visité tous les jardins. On a été plus en relation avec les jardiniers de Cambol qui nous ont reçus à plusieurs reprises et puis qui ont été très très disponibles, qui nous ont fait visiter leur jardin, qui nous ont parlé de leur méthode, de leur passion. Ils étaient tous passionnés. Et du coup, nous, on a appris plein de choses. Et puis, on a découvert le milieu aussi. C'est un milieu quand même particulier de rencontres, dans un cadre quand même superbe. Et du coup, c'est vrai que c'était très enrichissant.
Oui, c'était très enrichissant. Et c'est vrai que lors de nos balades avec Patricia dans les jardins familiaux, on a toujours rencontré quelqu'un et toujours été très accueillis et tout le temps ouvert à nous répondre à toutes nos questions.
Et vous vous attendiez à quelque chose de particulier ?
Bah, c'est vrai que quand on est parti, ce qu'on voulait, enfin nous ce qui nous intéresse, c'est les rencontres, enfin les contacts avec les gens. Bon, c'est vrai qu'au départ, on voulait faire beaucoup de choses, c'est-à-dire faire ce qu'on a fait là, et puis aussi rencontrer des gens avec d'autres cultures, parce qu'il y a des jardins où il y a des cultures différentes, même par exemple à la Madeleine, il y a plus d'une vingtaine de nationalités différentes, donc ça aurait été intéressant aussi de travailler sur ce genre de sur ce thème. Bon, on n'a pas pu parce que on n'avait pas le temps, mais c'était ça, c'était vraiment la rencontre avec des gens qui nous donnent leur passion, qui nous expliquent ce qu'ils faisaient, et voilà.
Alors j'ai appris, Patricia, que vous aviez une nouvelle technique, vous bêchiez votre allée de gravier.
Oui, parce que techniquement, il nous fallait un petit bruit de bêchage.
Et donc, en fait, vous avez été récupéré du bruitage de bêchage de gravier. Ça, je crois que ça n'a pas été gardé au final.
Non, on a été obligé de le couper, c'était pas bon son.
Je voudrais revenir, moi, sur cette notion de festival de lecture à voix haute. La lecture à voix haute, avant de découvrir ce festival, pour moi, c'était quelque chose qui n'existait plus, qui était issu plus de la tradition que de quelque chose d'actuel. Il y avait peut-être un côté... presque ennuyeux à la lecture à voix haute, en poussant un petit peu la réflexion. Alors voyons aujourd'hui ce qui se passe depuis plusieurs éditions. Je rassure tout le monde, non, ça ne fait pas partie de l'histoire, mais c'est un choix particulier. La lecture à voix haute, ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler peut-être quelque chose de très accrocheur, non, pour le public, non ?
Bah, c'est vrai que ça peut paraître difficile d'accès, exigeant. Bon, c'est vrai que la lecture à voix haute, on a rencontré donc une association qui le faisait, en fait. On a vu ça dans un autre cadre, ça nous avait beaucoup plu, et on s'est dit, bon, ça serait intéressant de le faire voir ici. C'est vrai qu'on travaille toute la journée, on fait des choses différentes pour donner envie aux gens de venir écouter de la lecture aussi à voix haute, parce que c'est vrai que ça peut paraître exigeant, difficile, intellectuel, incompréhensible pour certains, et en fait c'est un moment vraiment très, très plaisant. Là on vient d'assister à quatre textes là, qui viennent d'être dits à voix haute. On est dans l'histoire, on a envie de savoir la suite, non, c'est passionnant. Mais il faut passer effectivement le terme.
La représentation
la
lecture.
En fait, au départ, je connaissais bien le parc des Boucles de la Seine qui avait valorisé un peu le thème de la lecture et en particulier la lecture à voix haute. Et à partir de là, des associations sont créées sur la lecture à voix haute à partager dans les écoles, dans les collèges, un peu partout.
En travaillant cette année le thème justement, enfin en travaillant cette année la lecture à voix haute sur le thème du jardinage, est-ce que vous avez découvert quelques livres, quelques auteurs spécialistes en la matière que vous aimeriez partager?
C'est vrai que c'était difficile quand même de trouver des livres avec des histoires, en fait, où ça serait plus facile pour les personnes d'accrocher. Il y a effectivement des contes philosophiques, il y a des sensations. Par exemple, on a un livre sur les jardins d'écrivains. Chaque écrivain raconte les sensations qu'il a dans son jardin. Pour quelqu'un peut-être qui n'a pas trop l'habitude de lire, ça peut être un peu difficile. Hein. C'est vrai qu'on a eu pas mal. Bon, après, il y a beaucoup de livres sur, effectivement, les techniques. Les techniques, ça, c'est autre chose.
Je vois que tout le monde est dans la salle. Alors, c'est peut-être parce que j'ai un casque, mais j'entends personne qui discute. Tout le monde est d'une attention exceptionnelle. Vous pouvez bien entendu prendre l'apéro, réagir, même si vous souhaitez réagir d'ailleurs à ce qui se dit sur la table. N'hésitez pas, on a un micro qui peut se déplacer. Bien entendu, la parole est ouverte. Au-delà de la lecture, du jardinage, j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de dynamique qui se mettait en place. Voilà, chacun va dans son coin, amène des idées, parce qu'en fait, cette journée, au programme, on peut lire pour les auditeurs qui n'étaient pas là, mais il y avait des animations pour les enfants, il y avait une conférence autour de l'histoire des jardins, il y avait de la poésie. Il y avait des contes et des lectures pour les ados et adultes. Il y avait la fameuse œuvre multimédia. Il y avait un concours de dessin. Il y a un spectacle ce soir. J'ai l'impression que voilà, chacun ramène des choses et que c'est une construction très collective, que ça va au-delà de juste un festival. Bah, ça crée une dynamique.
Ça répond un peu à la question précédente, à savoir la lecture à voix haute. Pourquoi la lecture à voix haute? Mais la lecture à voix haute n'est qu'un vecteur et ça permet de raccorder tout un tas d'autres activités. Bon, on a eu de la lecture de texte tout à l'heure, accompagnée par du dessin, une illustration de ces lectures-là. Donc en fait, la lecture à voix haute, il y a un thème, c'est un vecteur, et après on peut amener un certain nombre de choses autour des expositions, du dessin, l'intervention de techniciens, d'architectes. On a eu quelqu'un du CAE qui est venu tout à l'heure parler des jardins, c'était fort intéressant, voilà.
On essaie aussi d'intéresser en fait toutes les personnes, enfin toutes les tranches d'âge. Donc effectivement, ce matin, il y a eu du travail avec des enfants qui sont en classe ou qui sont à l'école, au centre de loisirs. Et après, effectivement, tout à l'heure, c'était plus peut-être pour des jeunes adultes et puis les adultes, bien sûr. Après, bon, il y a des gens qui connaissent beaucoup de choses sur le jardin et qui avaient envie d'une conférence un peu plus ardue sur le sujet. Et l'intérêt aussi, enfin nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est travailler aussi avec les autres associations, les autres partenaires, toujours. Alors c'est vrai qu'on va toujours chercher des ressources à l'extérieur, entre autres, bon là ça fait 4 ans qu'on bosse, entre guillemets qu'on travaille, avec la troupe Blanche Ménadier. Bon, pour la conférence, on a été, comme dit Lucas, aller au CAE. Bon, on aurait pu aller chercher d'autres partenaires. Mais on va toujours chercher des partenaires et on essaie que ce soit pour toute la population, enfin toutes les tranches d'âge, et puis aussi du global, après des choses un peu plus pointues, etc.
Très bien, ben, nous essaierons de faire le tour en tout cas durant cette émission pour les auditeurs qui n'étaient pas là. Ils peuvent nous rejoindre encore pour le spectacle des maudits lecteurs tout à l'heure à 20h, oui. 21h pardon. 21h, oui. Voilà, qui n'hésite pas à venir nous rejoindre. Pour rester dans le thème, on va vous proposer une pause musicale de Charles Trenet. Vous imaginez bien le jardin extraordinaire.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en disant « Thank you very much, Monsieur Trenet ». On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, de petits morceaux de gruyère. Comme clients, ils ont monsieur le maire et le sous-préfet. Il fallait bien trouver dans cette grande ville maussade où les touristes s'ennuient au fond de leurs autocars. Il fallait bien trouver un lieu pour la promenade. J'avoue que ce samedi-là, je suis entré par hasard dans ce jardin extraordinaire. Loin des noirs buildings et des passages cloutés, il y avait un bal que donnait des primevères. Dans un coin de verdure, des petites grenouilles chantaient une chanson pour saluer la lune. Dès que celle-ci parut toute rose d'émotion, elles entonnèrent, je crois, la valse brune. Une vieille chouette me dit, quelle distinction! Maman, dans ce jardin extraordinaire, je vis soudain passer la plus belle des filles. Elle vint près de moi et là me dit sans manière, vous me plaisez beaucoup, j'aime les hommes dont les yeux brillent. Il fallait bien trouver dans cette grande ville perverse une gentille amourette, un petit flirt de 20 ans qui me fasse oublier que l'amour est un commerce dans les bars de la cité. Oui mais pas dans mon jardin extraordinaire. Un ange du bizarre, un agent nous dit, étendez-vous sur la verte bruyère, je vous jouerai du luth pendant que vous serez réunis. Cet agent était un grand poète, mais nous préférions Artémise et moi. La douceur d'une couchette secrète qu'elle me fit découvrir au fond du bois. Pour ceux qui veulent savoir où ce jardin se trouve, il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Bal de nuit, les oiseaux, les fleurs émerveillées, Artémise, ô douceur, extase de l'amour, je vous retrouverai ce soir à la veillée, belle et pareille au premier jour, et je vous aimerai sous la clarté lunaire du jardin extraordinaire. Il suffit pour ça d'un feu d'imagination.
Charles Trenet, un jardin extraordinaire. C'était de circonstances, n'est-ce pas, Catherine ?
Tout à fait, monsieur JC, tout à fait.
Voilà. D'ailleurs, c'est plein de poésie et par rapport à ce qu'on a vu, entendu et sur la préparation de ce festival de lecture à voix haute. Et dans cette journée, je trouve qu'il y a une poésie qui est liée au jardin, quoi.
Ouais.
Enfin, on verra tout ça tout au cours de cette émission.
Tout à l'heure.
Nous recevons maintenant Fabrice avec nous. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Alors vous êtes jardinier amateur, professionnel, passionné. Et puis de connaissances autour du jardin, j'ai l'impression.
Autour du jardin.
Voilà. C'est à peu près ça. Hein, là,
oui, voilà.
Voilà.
Et habitant du quartier.
Et habitant du quartier.
Rue d'Arlancourt. Mmh.
Ah bah, moi pareil. Pardon, ça n'intéresse personne, mais je le mets entre deux. Alors,
émission entre voisins.
Bah, il y a un petit peu de ça quand on
Exactement.
Fait une émission dans nos quartiers. Hein.
Exactement.
C'est un petit peu ça. Et c'est pas pour, pour être inintéressant. Fabrice, autour du jardin, moi j'ai une première question, on parle souvent du jardin, mais tout le monde entend des choses différentes autour du jardin. Il y en a qui vont penser au jardin, la pelouse, la piscine et la chaise longue, d'autres vont penser le potager
voilà. Faire ses légumes pour l'année, cultiver selon les saisons, avoir des légumes de saison, de la région.
Alors, de saison et de la région.
De la région.
Est-ce que, de toute façon, notre climat accepterait de faire pousser des choses qui ne sont pas du coin? Si on peut, par exemple, faire pousser ici des bananes, du riz, des choses comme ça?
Non, pas
forcément.
Impossible.
Donc, on est quand même lié à la contrainte du climat.
Oui, bien sûr. Il faut se lier, faire du haricot vert, ça marche très bien, de la tomate... De la salade, selon les époques, du chou. Il faut raisonner la production du jardin.
La faire en cohérence avec la nature aussi.
Parce que s'il fait sec, le manque d'eau. Il faut savoir aussi si on a un manque d'eau. Tout est lié au temps.
Et du coup, vous prévoyez vos cultures en fonction du temps qu'il va faire?
Ah oui, bien
D'accord.
sûr. On ne va pas faire... disons des haricots verts aussi en fin de saison, parce que la terre est trop humide, comme cette année.
D'accord.
Ils ne vont pas pousser à part mi-août, il faut se, comme les anciens disaient, à part par la lune.
D'accord. Vous jardinez en fonction de la lune?
Oui.
D'accord.
Alors justement, moi j'ai l'impression qu'il y a, que dans le jardinage, peu importe l'époque dans laquelle on vit, de toute façon les techniques sont à peu près les mêmes. On va avoir des outils qui vont peut-être faciliter les choses, mais j'ai l'impression que de toute façon on est lié aux mêmes contraintes qu'il y a, il y a 3, 4, 5, 10 siècles.
Nos grands-parents faisaient la même culture. On revient justement en ce moment à la culture de nos grands-parents. Ne pas faire n'importe quoi.
Voilà. Une chose qui serait tentant avec toute la technologie
avec les engrais. Voilà, c'est pour ça.
Du coup, est-ce que le fait de jardiner rapproche de quelque chose? Enfin, j'ai senti qu'il y avait presque une initiation dans le jardinage, qu'il y avait presque une réflexion.
C'est un amour à la terre. On revient à l'amour à la terre. Il faut avoir la terre et c'est une passion. Hein. C'est quelque chose, on ne peut pas le définir.
Chantez, et on le voit sur votre visage, vous en parlez, vous souriez, on sent qu'il y a de la poésie et une espèce de transmission.
On peut faire un potager sans amour. Vous n'allez pas faire une tomate, un potiron, une courgette sans amour.
Ça veut dire que ça ne marcherait pas?
Si ça ne marcherait pas, mais c'est une passion.
Pour vous, c'est étroitement lié.
Ah oui.
Y a pas...
Vous n'allez pas planter quelque chose comme ça. Et vous allez laisser pendant 15 jours, 3 semaines sans aller voir. Il faut aller voir tous les jours pour s'en occuper. C'est une passion, c'est tous les jours. Il faut s'en occuper.
Oui,
savoir
parce que
comment
c'est du travail quand
c'est
même.
Oui, c'est du travail. Mais, c'est
mais
une...
ça pèse pas.
Non, c'est pas... Même après une journée de travail, c'est... Une libération, même le week-end et tout, s'occuper de son potager, c'est une libération.
C'est bien.
Alors, est-ce que ce côté amour avec la terre, comment faire passer les choses, est-ce que ça va jusqu'à l'assiette finalement? Est-ce que quand on arrive chez vous et que vous nous faites, je sais pas, les tomates du jardin,
je vous fais des tomates, les aubergines et tout du jardin, ça n'a rien à voir ce que vous allez acheter.
Mais vous, dans la façon de le partager, vous le présentez autrement, je suppose. Enfin,
bien sûr, vous mangez des haricots verts chez moi, c'est excellent. Vous mangez des fraises, les framboises, ça vient du potager. Ça n'a rien à voir, c'est un amour de partager ce qu'on a à la production.
Alors, pour un piètre jardinier comme moi, est-ce qu'il y a des choses essentielles à savoir pour faire pousser des légumes? Est-ce qu'il y a certaines choses essentielles? Tout à l'heure, hors antenne, vous parliez de la lune, vous parliez de choses comme ça.
Oui, parce
est-ce qu'il y a des choses vraiment essentielles à respecter?
Déjà, avoir une bonne terre, puis après s'en occuper. C'est tous les jours. C'est un potager, il faut s'en occuper tous les jours. Il ne faut pas le laisser à l'abandon pendant une semaine en se disant... parce que les mauvaises herbes vont se mettre, il faut le biner, il faut... C'est une passion, c'est tous les jours qu'il faut le faire.
Alors, durant cette journée, et notamment tout à l'heure, les bénévoles de l'association du Clos-Auduc ont présenté un reportage qu'ils ont fait au jardin de Cambol. Et ce qui ressortait, c'était le fait de d'échanger avec son voisin.
Oui,
c'est-à-dire que,
d'un parce moment... que quand on a les graines, ou on a, vous avez des plantes de salade ou quoi, vous le donnez à votre voisin. Et lui, il va vous donner un autre plant. On fait un échange entre jardins.
Afin de récupérer des semis,
des
choses comme ça, des conseils aussi.
En plus, c'est un... quand on a des jardins comme ça, c'est, un échange, c'est du partage. Du partage, et le partage entre les plants, c'est convivial. C'est quelque chose d'excellent.
Vous disiez tout à l'heure, vous avez un jardin donc potager de 90 mètres carrés, c'est ça à peu près ?
Chez moi, il y a un Carbol.
Ah, vous en avez deux.
Quoi. Il faut faire de la production. Mais on fait partager la famille, on fait partager tout le monde.
Il vous arrive encore d'acheter des légumes à l'extérieur, des légumes que vous ne faites pas pousser, vous ?
Non. Ah non, non, parce que j'en ai moins pour l'hiver. Hein.
Vous faites les conserves ?
Je les congèle, je fais les conserves. Quand j'ai trop de tomates, je fais du coup les tomates pour l'hiver. J'achète très rarement des légumes. En ce moment, j'ai encore des brocolis dans mon jardin, de la salade.
Eh bien, très bien. Fabrice, merci de nous avoir
merci
parlé
bien.
Du jardin. Et on sent en plus quand vous exprimez sur le jardin qu'il y a toute la passion. Les auditeurs n'avaient pas votre regard et votre visage, mais il en disait long.
Merci bien.
Merci à vous, Fabrice, d'être passé par notre plateau.
Et j'y sais, si vous alliez faire un petit tour dans la salle pour recueillir quelques impressions.
Ah, vous voulez que je recueille des impressions ?
J'aimerais bien.
Vous êtes bien installé au plateau.
Moi, je suis tranquille. Allez donc.
Je vais aller voir là justement, il y avait d'autres bénévoles de l'association du Clos-Auduc qui tout à l'heure n'ont pas pris la parole. Arrêtez de vous cacher. Est-ce que vous avez des jardins, vous, chez vous ?
Un petit jardinet que je ne cultive pas. C'est un bout d'espace vert qui est à l'ombre. Donc je cultive de la mousse en fait, essentiellement. Donc en fait, j'aime bien aller voir d'autres jardins, de voir justement le courage qu'ont les personnes à entretenir leur jardin. Parce que c'est quand même. Oui, non, c'est énormément de boulot. C'est tout au long de l'année. Parce que nous, on voit les fruits, les légumes, on dit oui, c'est bien, c'est bon. Mais en fait, il y a énormément de boulot derrière. Je suis assez fascinée par le courage que les gens ont à s'occuper de leur jardin et puis ceux qui l'aménagent, ceux qui ont pas mal d'idées finalement.
Vous qui avez visité des jardins là, ces derniers mois, notamment sur la préparation de votre œuvre multimédia, est-ce que ça donne envie de s'y mettre du coup ? Est-ce que vous dites le printemps prochain, j'achète une paire de bottes, un motoculteur et c'est parti ?
On peut acheter des bottes, mais des bottes fashion on va dire. C'est vrai que ça donne envie, d'aménager, de se faire un petit coin. Et puis c'est vrai qu'avec la lecture au jardin, on dirait bien, je me ferais bien un petit coin dans un bout du jardin avec une chaise longue. Et puis finalement, quand il y a un petit peu de soleil, moi qui adore lire, je m'y mettrais bien pour profiter finalement. Puis en fait, moi c'est un petit espace, mais c'est vrai que c'est mon espace, quoi. C'est un espace extérieur, mais qui est soi, enfin, qui est à soi. Donc c'est en fait on profite du jardin dans la ville, mais c'est une petite respiration, c'est agréable. On a son petit bout de jardin, son petit bout de terrain, même si c'est pas grand chose. C'est pas que du béton, en fait ça change du béton. Donc, c'est pas mal.
Malgré tout ça, on sent quand même en vous la jardinière, on dit jardinière, non ? Urbaine, voilà. Voilà. Merci. Nous, je vous propose, Catherine, c'est que nous repartions en pause musicale, si ça vous convient. Et
ça
puis
me
nous revenons
bien.
Juste derrière. J'étais d'humeur, rock'n'roll pour ce tour-ci.
D'accord.
Inside. It might sound silly for me to think childish thoughts like these, but I'm so tired of acting tough and I'm gonna do what I please. Let's get married in a big cathedral by a priest. 'Cause if I'm the man that you love the most, you could say I do at least. Well, it's 1, 2, 3, 4, take the elevator at the hotel you're by. They're glad to see you later. All they got inside is vacancy. And it's a 4, 5, 6, 7, grab your umbrella. Grab hold of me, 'cause I'm your baby fella. All they got inside is vacancy.
White Straps, Hôtel d'Urba. Du mort rock'n'roll, on a commencé par Charles Trenet, on passe par White Straps. Eh bien, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Nous sommes toujours en direct du Clos-au-Duc, de l'association du Clos-au-Duc, à l'occasion du 6e festival de lecture à voix haute. Et on n'a pas parlé du sous-titre tout à l'heure, mais je l'aime beaucoup. C'est un festival sauvage et cultivé. J'aime bien comme,
oui,
comme sous-titre, de ce festival. Catherine, qui avez-vous installé à côté de vous?
Eh bien, justement, j'aimerais que vous vous présentiez et que vous présentiez votre association juste en deux mots. Dire
oui.
Un petit peu.
Elle était facile, cette présentation, Catherine. Hein, le subterfuge n'aura pas tenu. Hein.
Je le referai plus.
Non, mais bon, bonjour à tous. Donc, je me présente, Martial Ménadier, animateur et créateur du. Alors, on a un titre un peu ronflant, Pont des arts et rencontres culturel, mais on voulait surtout l'abréviation en parc, facile à retenir.
Et parc, c'est
le
Pont
parc,
des Arts.
Voilà, Pont des Arts, d'accord. Et Rencontres. Et c'est une association qui a d'abord comme sous-titre Blanche Ménadier.
Oui.
Et donc parfois on dit le parc Blanche Ménadier,
oui.
qui était ma maman, qui est une poétesse qui nous a laissé beaucoup de textes, d'ouvrages dans différents domaines, mais surtout en poésie.
D'accord.
Et je pense qu'elle m'a transmis le virus de la poésie parce que, au bout de quelques années, les intentions poétiques ont ressurgi vers les années 2000 et j'ai créé un café poétique à La Biche, que les anciens d'Evreux doivent connaître, qui a malencontreusement brûlé en 2006. Mais donc pendant 5 ou 6 ans, chaque mois, nous nous rencontrions entre amis de la poésie pour partager des lectures.
D'accord. Donc tout à l'heure, vous avez fait une présentation de plusieurs textes. Vous avez dit en introduction que c'était le thème du jardin, c'était facile parce que vous aviez
oui.
trouvé plusieurs textes.
De nombreux textes de poésie, puisque les poètes ont de tout temps chanté la nature, étaient inspirés par la nature. Alors c'est vrai qu'il y a d'une part la nature sauvage, et puis dès que la nature est un peu civilisée, ben, elle devient jardin, et en particulier aux alentours des villes.
Et pour vous, vous avez trouvé un auteur qui vous a plus particulièrement
alors,
ému,
oui,
qui a
oui.
plus particulièrement bien parlé du jardin. Vous avez,
alors, on a trouvé de. Pardon, excusez-moi. On a trouvé de nombreux auteurs. En particulier, avec Internet aujourd'hui, c'est assez facile de regrouper des poésies parce que la poésie est très bien représentée sur la toile. Et il y a de nombreux sites, il y a même des sites spécialisés, Poésie et Jardin, Jardin de Poésie,
ouais,
et dans lesquels on peut aller faire sa récolte, remplir ses paniers. Et c'est ce que nous avons fait. Mais il y avait aussi quelques recueils particuliers auxquels je tenais, comme celui de Robert Louis Stevenson, là, que j'ai découvert, et qui est véritablement une petite merveille. Ça s'appelle « Jardin de poèmes enfantins ». C'est dans une édition peu connue qui s'appelle « Circé », mais on peut le trouver sans doute. Et ces poèmes sont aussi beaux les uns que les autres. C'est une visite des jardins de l'enfance, et magnifique en anglais, mais très bien traduit.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, mais pour les auditeurs, Robert Louis Stevenson, l'auteur de L'île aux pirates,
oui.
notamment...
L'île au trésor.
L'île au trésor,
oui, et
excusez-moi.
Aussi,
il me disait, c'est
et aussi de Dr. Jekyll et Mr. Hyde.
Hyde,
donc un romancier très connu internationalement comme romancier, et qui est pourtant un poète
ouais.
méconnu, absolument splendide.
Alors, moi, je voulais revenir sur la poésie. Elle est étroitement liée à la lecture à voix haute, la poésie.
Oui. Oui, tout à fait. La poésie, c'est d'abord une parole sonore. On travaille la voix dans la poésie. C'est vraiment le son, la mélodie. Il faut rappeler que à l'origine, toutes les poésies étaient chantées, accompagnées de musique. On a tous entendu parler des troubadours, des ménestrels. Mais c'est l'origine de la poésie française. C'est pour ça qu'elle est rimée, qu'elle est versifiée. Ce cadrage rythmique et mélodique qui a continué dans la tradition française jusqu'à Verlaine, Apollinaire et d'autres, et des modernes encore, c'est une poésie faite pour être entendue. Et ça prend tout son sens. Par exemple, si on lit avec les yeux une poésie de Verlaine ou même une poésie de Mallarmé, on n'entend pas la mesure voulue par le poète, les sonorités, les allitérations et même la musique. Donc il faut lire la poésie, puis il faut aussi la lire pour la partager ensemble.
Tout à l'heure, justement, je vous prends un parti, madame, sur les essais. Non, mais c'est pour illustrer ce que vous étiez en train de nous dire. Tout à l'heure, lors des essais, vous aviez un micro qui ne convenait pas parce
oui, tout
que tout simplement, ce n'était pas le son recherché dans la poésie. Alors, rapprochez-vous d'un micro. Attendez, je vais vous en ouvrir un. Le bleu ou le blanc. Le blanc, il est bien. Voilà.
Oui, mais pas trop près. Oui, bah, c'était pas moi-même. C'était pas ma voix, donc c'était pas moi-même. C'était pas ce que j'éprouvais pour les textes.
Et du coup, une intention qui était plus difficile à faire passer à travers votre
oui,
lecture.
Mais c'était pas moi. Hein. Donc, ce que je ressentais, je ne le passais pas. Heureusement, vous êtes venu en sauveur, n'est-ce pas? Et là.
Non, on a toujours des micros dans les poches. Non, mais du coup, ça illustre bien que voilà, faut.
Ça vient pas que de la voix, ça vient de plus profond de soi-même. C'est vrai aussi. Hein. Mais.
C'est des émotions que vous faites partager.
Oui. Oui, puis des fois c'est drôle. Tout, là. Ben je me suis oui, régalée oui. sur le texte de l'épouse de Martial parce que c'était vraiment un ravissement. On dit toujours que cuisiner c'est un plaisir. C'est vrai que quand on cuisine c'est un plaisir. Mais là il y aura maintenant quelque chose de plus, de drôle. Ça sera pas une corvée. Ça sera un acte d'amour, mais un acte d'amour drôle.
Oui, c'était le texte sur l'aubergine qui est assez court. On peut peut-être proposer à Daniel.
J'allais vous le proposer. Vous nous en parlez. J'ai envie d'essayer. Alors, du coup, comme on le disait tout à l'heure, que c'est très important d'avoir voilà, une intention d'un voix, je vais vous équiper de ce micro-là qui sera assez près de vous. Et on va monter la tranche en conséquence. Vous voulez être installé autrement peut-être?
Non,
debout, horizontalement, comme vous souhaitez.
Non, ça va si je peux bouger.
Vous pouvez bouger.
Je passais la parole avec le geste.
Très bien. Eh bien, bougez face au micro, il n'y a pas de problème.
Je commence. Alors, de Michel Chevalier, qui m'a dévoilé les beautés insoupçonnées de l'aubergine. La cache de l'aubergine. Je suis descendue dans mon jardin pour y cueillir du romarin, du cerfeuil, de la ciboulette, sans oublier le basilic, le chouchou dernier planté. Mais que vois-je une fois baissé? Une aubergine toute menue et rondelette, encagoulée comme frimousse enfantine, suspendue comme clochette au cou du bonheur. Ô jour, ô nuit, vos beautés passeront. Sur cette belle en devenir, je cueillerai avec délice le fruit bleu et lisse pour la marier et en déguster sa chair fondante. Évidemment, je gesticule, mais j'étais dans l'enseignement. Ils étaient adorables. Mais
ça n'a pas trop gêné à la radio.
Ah, du tout.
Besoin de les.
Non, mais c'est vivre un texte aussi, parfois bouger.
Oui, même c'était mignon, mais quand l'audience échappait un peu, fallait ramener les foules.
Très bien. Vous aviez peut-être un autre texte à nous partager.
Ah bah, ce qui
nous
ferait plaisir, c'est de vous faire partager les mémoires d'une écrasée. Et ce texte qui a eu beaucoup de succès, quand c'est un texte de ma maman Blanche Ménadier, et qui lui a valu des prix à des concours liés à la cuisine, poésie et cuisine. Et elle avait été primée pour ce texte. On a chanté sans fin les charmes de la rose, fanée, épanouie ou bien à peine éclose. L'on a vu dialoguer le loup avec l'agneau et l'on a fait parler le chêne et le roseau. Moi, qui ne suis souvent qu'une belle écrasée, je voudrais vous livrer le fond de ma pensée. Bien que je sois présente à l'heure des repas, je ne fais que passer, vous ne m'entendez pas. On me couche parfois sur un grand lit de braise, dans ma robe des champs, je suis très mal à l'aise. On m'écrase à plaisir et suit à la merci des mains, des instruments, sans que je pousse un cri. On m'arrache les yeux, on me met toute nue et l'on se sert de moi sans nulle retenue. On me jette souvent dans une onde bouillante pour avoir sous la dent ma chair tendre et fondante. Vous saurez maintenant qu'un simple tubercule peut parler avec vous sans être ridicule. Je n'ai pu résister à l'appel d'un stylo qui m'a dit « Eh patate, écris-leur donc un mot !»
Très joli.
Et effectivement, voilà, c'est, on sent dans le style, voilà, qu'on peut allier des idées très fortes, du sentiment et de l'humour également, parce qu'on ne va pas s'en priver non plus. Hein.
Tout à fait.
Il manquerait plus que ça.
Petite pause musicale, monsieur.
Avec grand plaisir, Catherine. Surtout que cette pause musicale que nous allons envoyer, lorsque nous préparions cette émission, nous étions sur la lecture à voix haute, la poésie, nous discussions de tout ça. Et puis, c'est toujours la difficulté de choisir une pause musicale qui correspond un peu à l'ambiance. Et nous avons choisi Alain Lepresse.
Oui. Merci.
Quand le jour vient et que les putains et la une éteignent leurs fesses, les chiens d'ivrogne vont au gratin en tenant leurs maîtres en laisse. Chien d'ivrogne, c'est plus dur qu'on croit. On part à 6h à l'embauche faire tous les bars du côté droit pour redescendre par ceux de gauche. 9, 10, 11, 12. Et plus qu'il boit, plus qu'il devient beau, mon ivrogne. Plus qu'il perd ses poils, et aboie, et marche à quatre pattes et grogne. Faut le rentrer avant qu'il morde, je le tire jusqu'à son lit, là. Je le couche, je le borde, et m'endors à côté de lui. On est d'une famille exemplaire, 10 générations qu'on obéisse. Si l'héritier fait comme son père, tu seras chien d'ivrogne, mon fils. Et quand tu seras chien d'ivrogne, à toi de mériter ton dîner. Tendre la patte à la patronne, tenir un sucre sur ton nez. L'après-midi devant les troxons, on cause entre chiens respectifs du genre « Combien d'apéritifs met ton maître dans son glaçon ?» On commente les faits divers entre vrais bâtards et faux fox. Machin refusé un verre, du gommier étant désintox. Sous le store trouvé des bistrots, on fait des rêves de caniche. On danse sous un chapiteau qu'on a du feu dans la niche. Le 30 du mois, pour éviter les comptoirs où il y a les ardoises, on fait le détour des salons de thé, renifler le cul des pékinoises. Arrière, matous et clébards, de tout poil et vos pédigrés, qui nous snobaient devant les bars en nous traitant de chiens tarés. On est 10 chiens dans la même peau, du Saint-Bernard au chien aveugle, on garde un berger sans troupeau. On les 10 pour le prix d'un seul. Ah, quand viendra ma dernière heure, petit, écris sur ma couronne. Ici, J, ce fut mon honneur et ma passion. Un chien livré.
Merci. 46.
Exactement, il est 46, merci de le préciser. Catherine, c'était Alain Leprest avec Chien d'Ivrogne. Vous êtes toujours en direct de l'association du Clos-au-Duc à l'occasion du 6e festival de lecture à voix haute. C'est un festival sauvage et cultivé, c'est eux qui le disent et ils ont bien raison. Le thème de cette année, le jardin.
Et nous avons sur le plateau les maudits lecteurs. Alors j'ai une question existentielle à vous poser. C'est quoi la différence entre un conteur et un lecteur ?
Alors un conteur prend part du principe que c'est de l'oralité. Donc ça veut dire qu'on va garder une trame et on va improviser autour de cette trame-là. Alors que le lecteur, c'est un texte écrit. On ne change pas le texte qui est écrit par l'auteur et on interprète en fait par la voix uniquement ce que l'auteur a écrit.
D'accord. Et du coup, vous faites les deux ? Ou vous, quand vous êtes conteur, vous n'êtes pas lecteur, et quand vous êtes lecteur, vous n'êtes pas conteur ?
Lecteur, c'est lecteur, et conteur, c'est carrément... C'est, pour moi, c'est complètement autre
métier.
Chose, puisque là, on n'a pas du tout de texte. Quand on est conteur, c'est vraiment de l'oralité.
D'accord.
C'est faire passer un message, c'est les traditions, c'est d'autres choses qui passent. Et on réagit avec le public, ce qu'on ne peut pas faire en lecture, puisque là, tout le texte est écrit par l'auteur.
D'accord.
Alors,
d'accord.
Dans la lecture, moi, j'entends quand même une certaine tradition. Là, vous parliez du conte qui est autour de la tradition colportée et des histoires. Mais moi, quand on me parle de lecture à voix haute, j'entends tout le côté tradition, de se retrouver pour partager des histoires. J'entends tout ça.
Bien
aussi,
sûr.
Enfin, j'entends,
Ah oui, il y a le côté tradition. Il n'y a pas le côté oralité. Dans le sens, les contes africains qui sont transmis de génération en génération.
Qui autour, souvent n'ont pas été écrits.
Voilà. Là, c'est que de l'oralité. Alors que le lecteur, par contre, ça va être partager un texte. On est en fait passeur de livres. Moi, j'aime bien cette expression de passeur de livres. Justement pour faire connaître et après inciter les gens à acheter le livre et lire la suite parce qu'on n'en lit en fait que des extraits en général.
Oui, il y a un côté, oui, susciter suffisamment d'envie, d'intérêt. Mais alors du coup... Un texte que vous liriez à d'autres hein, aussi, mais que vous liriez qui me passionnerait, est-ce que forcément j'y trouverais la même chose, moi, en le lisant ? Est-ce que du coup, le lecteur est complètement neutre ?
Bien sûr que non. C'est une interprétation.
C'est quoi ? C'est sur le jeu de la voix sur le... Parce que si le texte est figé, qu'un mot est un mot, qu'une virgule est toujours placée au même endroit, comment d'une lecture à l'autre, ça peut être différent ?
Parce qu'on se fait chacun nos images mentales à partir du moment où dans un texte écrit. À partir du moment où tu lis un texte, tu vas te faire une image mentale qui va être différente si, suivant la personne. Quoi.
D'accord, par rapport à l'intensité, oui, vous...
Si je pouvais rajouter, je dirais aussi qu'il y a l'émotion du moment. La lecture, un moment de lecture publique à voix haute, c'est un moment qui est différent que de la lecture pour soi. C'est un moment privilégié où on transmet une émotion.
Alors est-ce que du coup le lieu, l'heure même, influerait sur cette émotion ? Je sais pas. Hein, c'est...
Je sais pas, peut-être.
Je pousse le raisonnement, hein, vous avez le droit de m'arrêter.
Oui, oui. Moi, je dirais que la différence entre effectivement l'oralité et tout ce que comporte l'oralité, donc à travers le conte, c'est d'abord la mémoire, une mémoire culturelle, alors que dans les lectures, on est plutôt dans la démarche de rendre hommage à des auteurs, de les faire découvrir, et donc on est fidèle à un texte d'abord. Donc on essaie, quand on travaille un texte pour la lecture à voix haute, de respecter au plus près ce que l'auteur a voulu dire à travers la ponctuation, à travers la manière dont il a écrit, etc. Donc il n'est pas question, par exemple, de faire l'impasse. Enfin voilà, on est vraiment très très fidèle au texte. Après, la manière de le lire... Hein, influe effectivement sur le message, la manière dont on va faire passer le message. Je pense que, enfin, c'est un avis très personnel, mais je crois que selon la personne qui lit le texte, des émotions différentes vont passer.
Mais votre interprétation, vous savez à partir de, enfin, comment vous pouvez savoir que l'auteur a voulu dire ça, puisque chaque lecteur a son image mentale différente.
C'est
donc
très
vous faites
subjectif,
passer votre image mentale
oui,
en fait.
C'est très subjectif. C'est pour ça que selon la personne qui lit, le message peut passer différemment auprès du public,
hein,
bien sûr.
Il y a différentes nuances, mais il faut rester fidèle malgré tout à l'esprit du texte.
Oui, alors si on pouvait passer un micro à madame, s'il vous plaît.
C'est vrai qu'on a une émotion quand on lit un texte, mais on doit freiner sa propre émotion pour ne pas influencer justement les personnes qui nous écoutent, parce que chacun a sa propre émotion.
Il ne faut pas être trop démontré.
Donc il faut qu'on se freine.
Ouais, c'est pas évident là. J'entends presque des choses qui se contredisent quoi. C'est, on veut faire passer notre image, mais pas trop. On veut mettre de l'émotion, mais faut pas qu'on soit.
Offrir un texte, c'est pas évident. Parce que quand on lit un texte, on a sa propre émotion, mais il faut pas trop qu'on l'offre, parce que chacun doit recevoir le texte et il a sa propre émotion quand il écoute le texte. Donc on ne doit pas nous influencer.
Il faut essayer de conserver une neutralité.
Il faut laisser une petite marge pour que celui qui écoute puisse se faire aussi ses propres images mentales. Mais on interprète, et à partir de ce moment-là, on va mettre, nous, nos images mentales obligatoirement. C'est vrai que quand je lis, moi, j'ai besoin de visualiser, et j'essaye de vous faire partager justement ces images mentales que j'ai. Mais par rapport à l'auteur, on n'est jamais sûr de l'interprétation que lui, l'auteur, a mis derrière les mots. Mais lui, il met son interprétation. L'auteur, le lecteur va mettre son interprétation. Celui qui écoute va mettre son interprétation. Et c'est ça qui fait la richesse aussi des textes.
C'est la liberté qu'on retrouve plus facilement dans la lecture que dans des spectacles plus complet, mais qui du coup impose plus une image. Je voulais revenir sur le thème, le jardin. Tout à l'heure, nous recevions juste avant le parc, l'association Parc, qui disait que sur le jardin, c'était génial au niveau des textes. Il y en avait à foison, il y avait presque à se baisser pour les ramasser. C'est un parallèle pas très bon sur le jardin, mais bon. Vous avez quoi comme référence par rapport au jardin ? Est-ce que ça vous a parlé tout de suite, ce thème du jardin ? C'était un thème que vous travailliez déjà ? Comment ça...
Je dirais que l'avantage de proposer des lectures à plusieurs, c'est qu'en amont, chacun fait aussi ses propres recherches de textes et force de proposition. Au moment où il faut effectivement s'arrêter sur une sélection de textes, chacun arrive avec ses propositions et ensuite on essaie de trouver ou un fil conducteur ou des textes qui peuvent être liés les uns aux autres parce qu'il y a quelque chose qui les réunit. Ou alors on peut faire d'autres choix, effectivement, de proposer des textes très différents. Là, c'est le cas ce soir. Par exemple, on a quand même choisi des textes assez différents. Il y a de la poésie, il y a aussi de la prose, il y a des auteurs plutôt anciens, des auteurs plus modernes. Donc voilà, à chaque fois, c'est une réflexion, c'est un travail que l'on mène à plusieurs pour essayer d'avoir un panel de textes qui forme quelque chose d'assez équilibré et puis qui propose une lecture à peu près d'une heure et quart qui paraisse assez logique, quoi. Voilà.
Alors justement,
je sais pas si j'ai...
Moi j'ai compris la réponse, hein, donc j'ose espérer que d'autres
aussi
l'auront compris. ce soir, vous présentez une lecture, un spectacle, c'est compliqué, comment on l'appelle ?
Une lecture.
Une lecture, hein.
Oui.
D'accord.
Oui, une lecture.
Appelez...
Une lecture spectacle, Laurent.
Voilà, ça y est.
C'est une lecture spectacle.
J'ai descendu dans mon jardin. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
Surprise.
Ah d'accord, ok. Bon, bah, nous n'en aurons pas quelques
ce
mots.
Ce qui veut dire, on est là et on écoute.
Mais de toute façon, nous ne comptions pas partir. Hein. D'accord.
Oui, non, mais
surprise,
voilà,
non, mais ça...
Botus,
oui,
c'est
j'ai... Non, mais c'est vrai que j'ai envie de dire... on a envie de surprendre aussi le public.
Bien
donc, on ne va pas révéler forcément les textes qui ont été choisis. Ce qu'on peut dire, je crois...
ça parle du jardin.
Ça parle du jardin. et puis, des textes très différents, je l'ai dit tout à l'heure, de longueurs différentes aussi. D'horizons différents, d'ambiances différentes.
Pour tout public.
Et puis pour tout public, y a des textes courts, des textes plus longs, il y a des textes plutôt modernes, d'autres plus anciens. Et puis il y a même une chanson. Donc, vous voyez, j'en dis trop là déjà.
Ça y est, là je vois que tout le monde n'est pas d'accord.
Je ne dirai pas quelle chanson.
Ok.
Incroyable.
On annule la question, très bien, c'est une question annulée, à votre demande madame.
Et donc c'est ce soir, 21h, dans la salle de la maison de quartier du Clos-au-Duc, donc on vous y retrouve avec plaisir. Voilà.
Merci à vous d'avoir éclairci quelques termes avec nous. Vous l'avez très bien placé, l'horaire et tout ça.
Je me professionnalise au fur et à mesure.
Et je trouve aussi, Catherine.
De l'heure.
Je vous propose une petite pause musicale et nous revenons derrière pour la conclusion de cette émission.
C'est très bien.
capitale. Lydie Poisson comme l'animal, un nom qui ne ressemble à personne. Lydie Poisson, elle pourrait être madame tout le monde. Elle pourrait être madame tout le monde, avoir fait le tour du monde. Elle pourrait être madame tout le monde. Avoir pas de bol, pas d'avenir, ou pousser son dernier soupir. Avoir parmi tant d'autres choses un grimpoté des échymoses. Avoir remporté sa valise, ses trois enfants en insoumise. À 230 sur l'autoroute, faire demi-tour quoi qu'il en coûte. Rentrer chez elle la première, ou trouver son âme en colère. Toute sa souffrance et composer quelques romans, sachant qu'hélas son talent a toujours compté pour du vent sous la lumière des projecteurs. Elle sait qu'un jour viendra son heure, tel un papillon de lumière, qu'elle finira par faire carrière. Les tabloïds de disques d'or un jour amélioreront son sort. Des sortes d'humeurs incontrôlables, des tendances à être bavarde, avoir 32 paires de chaussures, et des heures soigner sa coiffure, et sans jamais se trouver belle, avoir provoqué l'étincelle. Et pour couronner l'animal, elles sont à l'origine du mal.
Et oui, le temps file, le temps s'écoule. Il l'aurait sûrement bien mieux dit que moi, le poète. Mais en tout cas, nous arrivons à la fin de cette émission, Catherine. Voyez bien, ça a été vite, hein ?
Ça a été vite, ça a été très vite, je ne pensais pas d'ailleurs.
Ben voilà, ça a été très vite. Alors, pour conclure cette émission, j'ai failli commencer cette émission par le fameux « Il était une fois », pensant tenir là l'idée du siècle, ou en tout cas l'idée de la semaine. N'allons pas trop loin.
Du jour ?
Bah même pas, parce qu'en fait, heureusement que je n'ai pas commencé comme ça, que je n'ai pas fait cette vaine tentative humoristico faisant son malin. Je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas, j'ai failli faire mon malin là-dessus. Et heureusement que je ne l'ai pas fait, j'aurais eu l'air ridicule tout le long de cette émission, car nous avons bien compris que durant cette émission, la lecture à voix haute notamment, ce n'est pas une histoire de « il était une fois », c'est une histoire bien plus complexe, que c'est une histoire de partage, que c'est une histoire de passion, que c'est une histoire de modernité, pas seulement une histoire de tradition. Imaginez-vous, Catherine, deux secondes, l'air que j'aurais eu durant une heure si j'avais commencé comme ça.
En effet, vous auriez été un petit peu ridicule. En tout cas, moi, je vais
être... Vous
auriez
pu me soutenir, là. Hein.
Pas du tout. Je vais être beaucoup plus concrète. Et puis, je tenais à remercier les bénévoles qui ont travaillé depuis plusieurs mois sur ce festival, parce que c'est un investissement à long terme. C'est une idée, c'est des choses qui se décident bien avant les vacances, bien avant l'été. Je voulais remercier également l'équipe qui s'est mobilisée. Et puis les associations qui ont bien voulu participer à ce festival et bien voulu participer aussi à ce plateau radio, parce que c'est pas toujours facile, je vous en dis quelque chose.
Vous
le sais bien. Et puis l'école aussi qui a travaillé, il y a une classe de CP-CE1 qui a fait des magnifiques dessins qui seront exposés à la maison de quartier. Voilà monsieur JC.
Eh bien, merci à vous, Catherine, en tout cas, d'avoir relevé le défi, effectivement, d'animer cette émission avec moi. Nous, on vous laisse. Maintenant, on va aller manger. Hein. L'apéro est passé. Nous avons été mobilisés sur ce plateau radio durant l'apéro. Voilà, nous vous la punis. Nous allons, du coup, passer au repas en espérant qu'on vous a donné envie de lire ou de jardiner, au choix, et dans le meilleur des cas, de faire les deux.
Et de venir ce soir au spectacle à 21h.
Démodi lecteur à la maison de quartier du Clos-au-Duc. Nous étions en direct pour cette émission des quartiers. Eh bien, rendez-vous prochainement.
À bientôt.